Décortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre plongée analytique nous emmène sur un terrain géopolitique vraiment d'une densité folle.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est un gros morceau.
Et pour ça, on s'appuie sur un dossier très précis. On a épluché l'édition numéro 22 du magazine Aïe Débat.
Une édition datée du 28 février 2026, c'est ça?
Exactement. Et la mission de notre exploration du jour, c'est de décrypter la fin pure et simple d'une immense illusion.
La fameuse mondialisation heureuse.
Voilà ce concept de monde ultra-fluide où les frontières devaient magiquement disparaître au profit d'Internet et du libre-échange.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette promesse d'un monde totalement pacifié par le commerce et la technologie, elle ne s'est pas évaporée par accident.
Non, pas du tout.
Ce sont carrément les architectes même de cette mondialisation qui ont décidé de fermer les vannes.
Parce que pendant 30 ans, on nous a vendu que l'interdépendance empêcherait les guerres.
C'est ça. Mais le constat de la source est radicalement différent aujourd'hui.
Et c'est justement là que l'analyse les 20 lièvres assez contre-intuitif. On a souvent l'impression, en scrollant les infos, que le monde part totalement en vrille. Mais le texte affirme que le monde de 2026 n'est ni plus violent, ni plus instable qu'il y a 10 ou 20 ans.
Il exige juste qu'on retire nos lunettes teintées de nostalgie des années 90, en fait.
Ouais, c'est exactement ça. Le monde s'est refermé sur ses intérêts vitaux, certes, mais il est paradoxalement devenu beaucoup plus lisible.
Tout à fait. Et pour le lire, ce magazine utilise un prisme vraiment ultra pertinent.
La perspective stratégique du Maroc.
Voilà, et c'est une perspective hyper intéressante pour comprendre la mort de ce mythe post-frontière. Pense un peu aux crises successives qu'on a vécues.
Ah, la liste est longue. La crise financière de 2008.
La pandémie, évidemment.
Les chocs énergétiques, la dépendance au gaz.
Exactement, et toutes les ruptures des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Ah oui, quand les usines s'arrêtaient à l'autre bout de la planète.
Mais tous ces événements, ils ont prouvé une chose fondamentale. La démondialisation, c'est pas du tout une posture idéologique.
C'est pas un repli nationaliste ou une espèce de peur de l'étranger.
Non, c'est devenu une nécessité stratégique absolue.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le marché libre a complètement échoué? Parce que quand une pandémie paralyse tout, on l'a bien vu, les algorithmes dans la tech, ils pouvaient pas magiquement faire atterrir des masques sur un tarmac.
Absolument. Le marché et la technologie, c'est d'une efficacité redoutable pour optimiser les profits quand tout va bien, en temps de paix, quoi. Mais face à une crise existentielle, l'État redevient l'ultime filet de sécurité. C'est la seule entité capable d'assurer la survie physique d'une nation.
D'accord. Mais pour que cet État puisse agir ou même protéger ses citoyens, il lui faut bien un socle.
Il lui faut un territoire, oui.
Et c'est là qu'il faut sérieusement dépoussiérer notre définition du mot territoire, non?
Ah, totalement.
Parce que quand on pense géographie classique, on s'imagine un vieux plateau de jeu de société. Un truc tout plat, figé, avec des petites lignes pointillées pour les frontières.
Ouais, la vieille carte de l'école.
C'est ça. Mais en lisant cette analyse, on comprend que le territoire aujourd'hui, c'est plutôt une partie d'échecs en trois dimensions, où les pièces bougent sous l'eau et même dans l'espace.
C'est une excellente métaphore. Le territoire ne se limite plus du tout à la terre ferme. Il englobe la mer, les abysses, l'espace extra-atmosphérique et bien sûr le cyberespace.
D'ailleurs, il y a une donnée dans le texte qui remet tout en perspective.
Le chiffre sur les communications.
Ouais, 95% des communications mondiales transitent aujourd'hui par des câbles sous-marins.
C'est vertigineux.
Mais attends, 95%. On nous vend l'ère du sans fil, de la 5G, du cloud immatériel.
Et en réalité, presque tout passe par de simples câbles posés au fond de l'océan.
C'est fou.
Des câbles qui sont souvent pas plus épais qu'un banal tuyau d'arrosage.
Un tuyau d'arrosage pour faire tourner l'économie mondiale. Les nouvelles lignes de front.
Tout à fait. Les détroits, les ports ultra connectés, les data centers géants, les orbites de nos satellites, tout ça, ça compose une nouvelle géographie critique.
Donc ce qu'on appelle la souveraineté numérique, c'est pas du tout un concept abstrait pour geeks ou pour avocats.
Pas du tout, c'est de l'infrastructure pure et dure. Faut littéralement protéger physiquement les plages où ces câbles atterrissent.
C'est le cœur du problème.
La puissance d'une nation en 2026, elle se mesure plus seulement à sa capacité à défendre un champ de blé ou une montagne. Elle se mesure à sa capacité à sécuriser des flux invisibles de données. Et surtout, potentiellement à empêcher un adversaire d'y avoir accès.
Et voici où ça devient vraiment super intéressant. Face à cette redéfinition totale des règles, l'analyse qu'on étudie propose un changement d'angle radical.
Le fameux changement de perspective.
Ouais. Les auteurs expliquent que continuer à lire la géopolitique uniquement depuis les bureaux de Washington, de Pékin ou de Moscou, c'est un réflexe paresseux.
Et on a tous ce biais-là.
Totalement. Mais pourquoi analyser les tensions mondiales depuis Rabat, Casablanca, Tanger ou Dakhla? Ça changerait la donne.
Parce qu'un pays comme le Maroc, il lit pas ses tensions sur du papier, dans des espèces de cercles de réflexion théorique.
C'est pas du concept en l'air.
Non, toute géopolitique est incarnée. Ce qui se décide dans le bras de fer entre les superpuissances, la guerre des puces électroniques, l'énergie, ça a une traduction locale, brutale et immédiate.
Et si on se place du point de vue de la géographie marocaine, on observe ce que les auteurs appellent un état pivot.
C'est le terme clé, oui.
Mais concrètement, ça veut dire quoi être un état pivot? C'est pas juste être un spectateur qui prend les coups, ni un géant qui dicte les règles.
C'est un point d'équilibre. Le Maroc se trouve littéralement à l'intersection tectonique de plusieurs mondes. D'un côté, t'as la fracture entre une Europe vieillissante et une Afrique en pleine explosion démographique.
La démographie, ouais.
Ensuite, c'est le carrefour physique entre l'Atlantique et la Méditerranée. C'est la ligne de crête entre sécurité et développement.
Et pour un État avec une position pareille, la souveraineté, ça s'improvise pas avec des beaux discours à l'ONU.
Jamais. Ça se construit avec de l'architecture territoriale massive, maritime, technologique.
Et les exemples concrets dans le dossier sont frappants. Prenons le port de Tangemed.
Un très bon exemple.
Jusqu'ici, on pourrait se dire, bon d'accord, c'est un très grand port, plein de conteneurs, super. Mais les auteurs insistent, il faut voir se le voir juste comme de la logistique, c'est rater toute l'image.
Complètement.
Tangemed y est décrit comme un outil de puissance silencieuse. Comment un simple port, aussi grand soit-il, peut exercer une vraie puissance géopolitique?
En devenant un point de passage dont le reste du monde peut littéralement plus passer. Quand tu contrôles un nœud logistique de cette ampleur, qui est connecté à plus de 180 ports dans le monde...
180, c'est énorme!
Ouais, tu deviens une artère incontournable des chaînes de valeur. C'est ça la puissance silencieuse. T'as pas besoin de menacer militairement tes voisins. Ton poids géopolitique, il réside dans le fait que la fluidité du commerce mondial dépend de toi.
Le Maroc a donc compris, bien avant d'autres, qu'il fallait lier son territoire physique à cette nouvelle forme de souveraineté.
Exactement.
Et cette idée de lier la géographie à l'influence globale, ça nous amène à un autre dossier majeur de la source, le Sahara marocain.
L'analyse est hyper claire là-dessus. C'est pas juste un dossier diplomatique coincé dans des bureaux internationaux.
Non, c'est une équation géopolitique à 360 degrés.
Si on relie ça à la vision de l'État pivot, le Sahara marocain prend une dimension hautement stratégique. Ça offre une façade atlantique immense.
Ce qui veut dire contrôler de vastes zones économiques exclusives.
Tout à fait. Mais surtout, ça assure une continuité territoriale vitale entre le royaume et sa profondeur stratégique africaine.
C'est la réinscription physique du Maroc dans la compétition mondiale.
Sans cette continuité, ce rôle d'interface entre l'Europe et l'Afrique, il perdrait une grande partie de sa substance.
Donc si on résume, on a des ports qui agissent comme des aimants géopolitiques et des territoires qui servent de ponts continentaux.
C'est ça.
Ça remet complètement en question notre façon d'évaluer la force d'un pays. On a passé des décennies à vénérer le fameux « soft power ».
Ah oui, la capacité à séduire par la culture.
Le cinéma, la gastronomie, la musique. Mais l'analyse suggère que ça suffit plus du tout.
Le magazine est même catégorique sur ce point. Le soft power, c'est magnifique en période de grande stabilité.
Quand tout va bien, quoi.
Mais une influence culturelle qui n'est pas adossée à une vraie résilience économique ou à une capacité de défense, c'est un château de cartes.
Au premier coup de vent, tout s'effondre.
Dès qu'une crise majeure tape, ce modèle vole en éclats. D'un autre côté, le hard power, la force militaire pure et dure, fait un retour fracassant.
On le voit tous les jours. Les conflits en Europe de l'Est, les tensions en mer Rouge mentionnées dans le dossier.
Ça nous rappelle que la force armée dicte toujours les lignes rouges. Mais, et c'est là que c'est subtil, même ce hard power classique ne suffit plus pour dominer le jeu en 2026.
C'est là qu'émerge cette fameuse nouvelle grammaire du pouvoir. On parle d'un monde où la vraie force, c'est la maîtrise des chaînes de valeur.
Les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle.
Les câbles sous-marins dont on parlait, mais... Il y a un terme dans le texte qui demande vraiment à être éclairci. La souveraineté normative.
C'est le nerf de la guerre.
Comment le fait de fixer des normes ou des règles peut contraindre une autre nation sans tirer une seule balle?
C'est simple. Imaginons une norme industrielle sur, disons, la fabrication des batteries de voitures électriques. Ou une norme juridique sur la protection des données.
Ok.
Si une superpuissance arrive à imposer ses propres règles techniques comme étant le standard mondial, bah toutes les autres nations sont obligées de s'y plier.
Juste pour continuer à vendre leurs produits sur le marché.
Voilà. Celui qui écrit le code ou la loi façonne le monde. Vous forcez les économies concurrentes à jouer sur votre terrain, avec vos règles. C'est redoutable.
C'est un peu comme si une superpuissance pouvait désactiver l'économie d'un pays concurrent aussi facilement qu'on supprime une appli sur un smartphone.
C'est exactement ça.
Juste parce que le pays ne respecte plus les conditions d'utilisation dictées par le créateur.
L'analogie est parfaite. C'est ce qu'on appelle le smart power dans ce contexte. Une combinaison hyper agressive de technologie, de diplomatie et de coercition économique.
Et c'est la menace principale pour les États intermédiaires.
Oui, l'objectif d'un pays comme le Maroc face à ces géants, c'est évidemment pas la domination mondiale. L'enjeu vital, c'est l'autonomie stratégique.
Mais l'autonomie stratégique dans un monde aussi interconnecté, ça ressemble pas un peu à un vœu pieux ? Comment un État pivot évite de se faire broyer ?
En maîtrisant l'art de l'empêchement.
L'empêchement.
La puissance aujourd'hui, c'est empêcher l'autre de te dicter sa loi. Et ça, ça passe par une diversification absolue des alliances.
Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.
Exactement. Pouvoir coopérer avec tout le monde sur des dossiers précis sans jamais dépendre de personne de manière vitale. Le but ultime, c'est de ne jamais être réduit à un simple échiquier sur lequel les grandes puissances viendraient régler leurs propres comptes.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour ces superpuissances, justement ? Le dossier aborde un point très controversé. Il s'attaque au grand mythe du moment, le déclin inéluctable des États-Unis.
Ah oui, un sujet brûlant.
On lit partout que l'Amérique est polarisée, endettée, au bord de l'implosion, prête à se faire dévorer par ses rivaux. Mais les auteurs balaient cette théorie d'un revers de main.
Totalement. Et l'analyse froide des sources.
On ne valide aucun camp politique ou idéologique, on rapporte l'analyse stratégique du magazine. Et selon eux, le monde n'est pas du tout post-américain, il est américano-contesté.
La nuance est énorme. L'analyse démontre que l'Amérique s'est pas effondrée, elle a muté.
Elle a changé de méthode.
Voilà. L'époque où Washington envoyait massivement ses troupes pour des interventions au sol s'est révolue. En s'appuyant sur leur stratégie de sécurité nationale de 2025, le magazine détaille un virage radical.
Il procède à un encerclement stratégique, c'est ça le Deveuil ?
Exactement. Basé justement sur ces fameuses normes technologiques et la guerre des dépendances. Le dollar reste la monnaie reine et leur contrôle sur l'infrastructure physique d'Internet est toujours gigantesque.
Mais pourtant, on entend parler en boucle d'un monde multipolaire, d'un rééquilibrage avec les fameux pays émergents. Ce serait une illusion aussi, hein ?
Le dossier juge cette multipolarité très incomplète, oui. Les autres pôles affichent des vulnérabilités structurelles vraiment béantes face au système américain.
Par exemple, la Chine.
La Chine a une faiblesse critique. Elle dépend de routes maritimes et de marchés de consommation occidentaux qu'elle ne sécurise pas totalement militairement.
Et la Russie ?
Force de frappe militaire, évidente, oui, mais son modèle économique reste extrêmement fragile, très peu diversifié.
Et l'Europe dans tout ça ?
Elle demeure une superpuissance normative et commerciale, c'est clair, mais politiquement, ça reste très fragmenté.
Ce qui nous ramène directement à la collision frontale entre la Chine et les États-Unis. Le test insiste bien. On n'est plus dans une simple guerre de droits de douane sur l'acier ou les panneaux solaires.
Non, c'est devenu une guerre systémique totale pour la suprématie des technologies critiques.
Et c'est là que les États pivots entrent dans la danse avec un concept très à la mode. Le Frenchoring.
Le Frenchoring, ouais.
Concrètement, comment cette guerre des géants impacte les autres à travers ce mécanisme ?
C'est l'idée de relocaliser ces chaînes de production chez des pays amis, ou du moins des partenaires jugés géopolitiquement sûrs. Washington et Pékin cherchent chacun à sécuriser leurs approvisionnements en courtisant ces fameux pays intermédiaires.
Donc, pour des nations stables qui ont des infrastructures solides comme Tangemed, c'est le jackpot économique, non ?
C'est une aubaine monumentale, oui. Les investissements pleuvent, mais le magazine lance un avertissement hyper clair. Le piège, c'est de tomber dans une dépendance asymétrique.
Donc, en acceptant trop d'usines ou d'investissements d'un seul camp, on devient dépendant de sa bonne volonté.
Et pire, on risque de devenir une cible pour le camp adverse. Si tu deviens le maillon critique de la chaîne technologique d'une seule superpuissance, bah tu perds ta fameuse autonomie stratégique.
Tu deviens un simple instrument dans leur guerre.
C'est tout le danger.
Ce qui soulève une question essentielle, je trouve, pour ceux qui nous écoutent. Face à ces concepts de guerre systémique, de normes ou de friendshoring, pourquoi est-ce qu'une personne qui gère sa boîte ou qui essaye juste de suivre l'actualité devrait s'en préoccuper dans son quotidien ?
Parce que c'est une immense leçon de lucidité. S'informer au quotidien, ça peut être extrêmement anxiogène si on a l'impression que le monde subit des catastrophes aléatoires.
Le fameux bruit médiatique.
Voilà. Comprendre ces dynamiques profondes, ça donne une grille de lecture pour éviter l'épuisement mental face à ce chaos apparent.
C'est tellement vrai. Quand on constate soudainement que le prix des composants électroniques explose ou qu'on ne peut pas acheter une voiture neuve à cause d'une pénurie de puces.
ou que le coût du fret maritime double du jour au lendemain.
Ce n'est pas des anomalies du marché, ce n'est pas de la malchance. Ce sont les symptômes tangibles, vécus, de cette nouvelle territorialisation.
Absolument. Savoir décrypter ces ondes de choc, c'est le seul moyen de ne pas subir ce nouveau monde aveuglément. La géographie dicte à nouveau sa loi.
Et le monde de 2026 est impitoyable. Il récompense la préparation et sanctionne l'improvisation.
Les nations doivent impérativement diversifier leurs alliances pour espérer prospérer.
Bah écoute, c'est une excellente synthèse des enjeux soulevés par ce numéro 22 d'e-débat. Mais avant de clore cette exploration, il y a une idée qui me vient en filigrane.
Vas-y.
Une question qui va même un peu au-delà de ces pages. Le magazine décrit brillamment cette course effrénée des États pour reprendre le contrôle de leur territoire physique, maritime, cyber.
C'est le cœur de l'analyse, ouais.
Mais en parallèle, on observe une privatisation foudroyante de ces mêmes espaces. L'espace extra-atmosphérique y se remplit de gigantesques constellations de satellites privés.
C'est vrai.
Les fonds marins sont sillonnés par des câbles dont les vrais propriétaires sont plus les États, mais les colosses mondiaux de la tech.
Les géants du numérique, oui.
Alors, la question vertigineuse pour demain, c'est à quel moment précis ces infrastructures privées deviendront tellement titaniques, tellement indispensables à la survie d'un pays, qu'elles forceront des États souverains à s'asseoir à la table des négociations avec des PDG très exactement comme s'il s'agissait de nations à part entière.
Négocier avec une entreprise comme on négocie avec un chef d'État. C'est une perspective qui remet en question l'essence même de ce que signifiera être un État souverain dans les années à venir.
Ça donne vraiment matière à réfléchir. Sur ce, notre plongée analytique s'achève. C'est toujours essentiel de garder un esprit critique bien aiguisé face à l'actualité pour interroger les rouages du monde qui se dessinent sous nos yeux.
Merci de nous avoir suivis.
À très vite pour un nouveau décryptage en profondeur.